Ce 10-10 vous est proposé par le musée Parcelle 473 à Malbosque, sur les hauteurs de Montpellier. Plongez-vous dans une expérience inédite au cœur d'un lieu unique et vivant où l'art urbain se crée, se transforme et se transmet. Expositions, ateliers, rencontres avec les artistes, librairies. Vous avez rendez-vous au musée Parcelle 473 avec le street art, l'art contemporain, en un mot, l'art pour tous.
Bonjour chers éditeurs et bienvenue dans ce 10-10 sur Radio FM+. Je suis ravie de vous retrouver pour une émission pleine de découvertes et de rencontres. Aujourd'hui, nous recevons Tom Lodi et Baptiste Morvan de la maison d'édition associative Hall numéro 12, implantée en Occitanie. Cette maison valorise la diversité littéraire, accompagne humainement les auteurs et les autrices de la région et soutient toute la chaîne du livre, correcteur, maquettiste, imprimeur et librairie indépendante. Le hall numéro 12 reflète la génération milléniale, celle qui a grandi dans la pluralité culturelle mêlant les codes et les genres pour créer des œuvres engagées et contemporaines. Pour nous en parler, j'ai le plaisir d'être avec Tom Lodi et Baptiste Morvan. Et bienvenue à tous les deux sur le 10-10.
Et bonjour Nathalie, merci de l'invitation.
Bonjour, merci d'être là.
Tom, je suis ravie de vous retrouver. On se tutoie à l'extérieur, mais on va se voyer à l'antenne. J'aime bien, moi, ça donne un côté mystérieux.
Ça marche.
On s'était vu il y a un peu plus d'un an, je pense, à peu près un an.
Oui, exactement.
On s'était rencontrés sur la comédie du livre. Et puis, vous étiez venu nous présenter votre ouvrage que j'avais trouvé très moderne. Rappelez-moi le titre,
Tom. À l'opposé de la veille.
Voilà. Et j'avais trouvé qu'il y avait une écriture vraiment très, très moderne. J'avais beaucoup, beaucoup aimé ce bouquin. À cette époque-là, c'était déjà un petit peu dans votre tête, mais vous pouvez nous raconter ce qui vous a donné envie de créer ce hall numéro 12 ?
Eh bien, du coup, c'est un peu mon aventure en tant qu'auteur. Lorsque j'avais fait de la veille pour rechercher une maison d'édition, j'avoue que je ne me suis pas identifié aux maisons d'édition, même les plus grandes, les plus réputées. Après, on a tous ce fantasme de vouloir rejoindre la plus prestigieuse.
Allô, c'est Gaston Gallimard.
Ouais, voilà.
Tu veux venir chez moi ?
Exactement. On a vraiment cet objectif. Mais derrière, après, je me suis quand même, comment dire, responsabilisé et pris conscience que c'était quand même un gap assez spécial. Et je me suis même attardé sur des maisons d'édition plus indépendantes. Et il y en a des excellentes et extraordinaires au niveau de l'identité, au niveau de ce qu'elles défendent. Mais dans ce que je recherchais à défendre, je n'avais pas du tout trouvé de quoi m'identifier. Ouais.
Surtout qu'il y a en ce moment une recrudescence des maisons d'édition qui sont... Quand d'éditeur, ça vous permet d'avoir un ISBN et tout ça, mais où quand même on demande aux auteurs notamment soit de payer, soit d'en acheter un nombre
oui,
déterminé.
Oui, c'est ça, c'est des contrats à compte participatif, effectivement, ce que nous, on ne fait pas du tout, du coup, pour le coup.
Et qui est plus courageux, parce que c'est vrai que là, c'est même, il y a des maisons d'édition qui vous demandent d'envoyer, vous avez écrit, envoyez-nous, on édite. Bah oui, non, c'est pas, il y a quand même un peu un travail d'éditeur, et on va en parler longuement.
Effectivement.
Baptiste, vous l'avez rejoint quand cette idée, et pourquoi ?
Eh bien, j'ai rejoint l'aventure il y a quelques mois. Tout simplement parce que moi aussi, de mon côté, j'avais des aspirations à revenir vers un peu plus de littérature, qui a toujours été quelque chose de qui m'est très cher et très important. Et j'avais même au fond de moi l'idée d'un jour participer ou même créer une maison d'édition. Et c'est en me renseignant sur ce qu'il y avait dans le coin près de Montpellier, parce que je suis arrivé récemment à Montpellier, que je suis tombé sur le Hall 12. J'ai tout de suite envoyé un mail à Tom pour lui dire que c'était génial, que j'adorais l'idée, que je me reconnaissais tout à fait dans la ligne édito, que j'avais tout simplement envie de rejoindre l'aventure et que j'étais hyper motivé. En plus, c'était sous le statut associatif, ça ne me dérangeait pas du tout d'être bénévole, de donner de mon temps, etc. Donc, c'est l'histoire d'une belle rencontre où je pense qu'on a tous les deux les mêmes attentes, on est tous les deux de la même génération, on aime tous les deux le même genre de littérature.
Et vous-même, vous êtes auteur, Baptiste ?
Non, j'écris, mais je ne suis pas publié. Peut-être un jour.
Il y a plein d'auteurs non publiés.
Voilà, exactement.
L'un ne va pas forcément avec l'autre.
Non, mais voilà.
Et c'est quelque chose que vous aimeriez de publier, justement ?
Ah oui, un jour, je pense. Mmh. Ouais. Mmh.
Tout de suite, bon, vous avez 30, un peu plus de 30 ans chacun.
Ouais, ouais.
Tout de suite, justement, parce que c'est fort, cette idée de trentenaire, c'est la génération qui a été biberonnée à Harry Potter, qui a été... Il y a une littérature, quand même, de cette époque-là. C'est la première génération aussi jeux vidéo. Enfin, voilà, il y a toute une culture qui va avec cette littérature. Vous êtes retrouvés tout de suite, tous les deux, là-dessus ?
Dans la pluralité culturelle, ouais, complètement, ouais. Franchement, on s'est identifié à plein d'aspects. Ouais, plein d'aspects. Après, on n'écoute pas le même genre musical, on n'a pas évolué dans le même
univers. Vous n'êtes pas des clones non plus.
C'est ça, mais on s'est vraiment reconnus sur cette sensibilité-là, en fait.
Ouais, un peu sur les basiques, on va dire, sur le cœur de ce qu'on aime. C'est la même chose en fait, on est vraiment similaire sur vraiment ce qui nous intéresse le plus profondément dans la littérature. C'est là qu'on s'est retrouvés.
La première fois, Tom, que vous m'envoyez un petit mail en me disant j'ai cette idée là et j'aimerais qu'on en parle, c'était il y a à peu près, juste après définitive notre rencontre. Il y a eu un moment où, parce que ça a été vite en définitive, pourquoi avoir choisi ce moment là déjà de votre vie, pour vous lancer dans cette aventure, et puis cette période post-Covid aussi, qui permettait peut-être ça plus facilement.
Oui, bah après, ouais, effectivement, il y a peut-être un peu l'effet post-Covid, où on recentre les choses sur ce qu'on a envie de réaliser, créer et défendre. Et j'avoue que je me suis dit, s'il y a... En fait, je me suis rendu compte que je dépensais énormément d'énergie dans plein de domaines différents, et sur plein d'aspects différents, et que là, cette énergie, et vu ce que j'étais capable aussi de dépenser en énergie, ben, je me suis dit, j'ai envie de la centrer vers quelque chose qui me correspond et qui me parle complètement. Ouais.
Il vient d'où ce nom de hall numéro 12 ?
Ah, alors, le hall numéro 12, ça a été vrai. Alors, il y a une connotation un peu d'espace de transition, en fait. C'est vraiment ça. La symbolique, c'est vraiment on va traverser un hall pour découvrir un autre lieu derrière lequel plein de portes s'ouvrent à nous. Et derrière, 12, c'est un peu aussi un chiffre qui symbolise des cycles vertueux, c'est ça, ouais. L'harmonie, en fait. Du coup, on s'est dit, on va additionner tout ça.
Quand Baptiste, vous avez bidouillé sur Internet, vous êtes tombé, c'était déjà au numéro 12,
ça oui, s'appelait
déjà comme ça. Ouais. Et ce nom, ça vous a parlé tout de suite ?
Et non, j'ai trouvé ça mystérieux, ça ne m'a pas parlé tout de suite. D'ailleurs, c'est une des premières choses que j'ai demandé à Tom aussi, parce que ça m'a surpris. J'ai trouvé ça intrigant et c'est pas une mauvaise chose.
Voilà, c'est un choix qui peut être intrigant et un peu casse-gueule aussi, parce que c'est vrai que des fois, je sais pas, vous, il y a une maison d'édition, hein, Ubicart, qui, voilà, on sait, Ubicart, on se dit, bon, avec un peu de chance, il y a de l'art là-dedans, quoi.
Ouais.
Au numéro 12, voilà. Et après, ça donne aussi envie d'aller voir. Hein. Faut pas non plus.
Ça peut donner envie d'ouvrir la porte.
Exactement.
Ouais,
exactement. Tom, vous parlez d'espace de transition, mais transition vers quoi exactement ?
Bah vers les prochaines générations, en fait. C'est un peu l'objectif de la maison d'édition, c'est d'être déjà, dans un premier temps, être le reflet de la génération milléniale. Mais derrière, elle est vouée aussi à mettre, je pense, en valeur les générations à venir aussi. Ouais.
C'est quoi les milléniales exactement ?
Les milléniales.
Vous êtes un peu. Je pensais que c'était ceux qui étaient nés en 2000, moi. Non,
c'est 80. Alors, je me rappelle plus des dates exactement. Il me semble
c'est
que c'est 88.
Ouais.
Enfin, c'est à partir des années 80 et ça s'arrête en 1997. Hein.
D'accord.
Il me semble la dernière année.
Moi, j'ai fait du management toute ma vie. Alors, il fallait voir les comportements. Ça m'a toujours hérissé. Je veux dire, la génération Z, la génération Y, la génération. Ouais. Et je me retrouvais dans des séminaires où, soi-disant, je ne devais pas du tout m'entendre avec des gens qui étaient dans une autre numéro de génération. En définitive, Tom, on s'entend bien tous les deux.
Oui.
On a des générations différentes, voilà. C'est pas.
Non, ouais, mais complètement. Après, c'est pas une guerre déclarée aux autres générations. Pas du tout. Pas du tout. C'est pour offrir surtout une plateforme et.
Mais qu'est-ce qu'ils ont de commun ensemble, ces milléniaux, justement ? On peut dire, par exemple, les gens qui avaient. Moi, je suis arrivée sur le marché de l'emploi dans les années 80. Ça a été le premier choc pétrolier pendant Giscard. Moi, je me rappelle d'un Mitterrand qui disait « je ne serai pas le président d'un million de chômeurs ». En 81, deux ans après, il y en avait deux. Voilà, mais je n'avais pas les mêmes angoisses Est-ce que d'autres générations, que ceux qu'aujourd'hui qui n'en arrivent même plus, enfin qui sont un peu les vôtres aussi, à plus avoir envie de faire d'enfants par exemple, ouais. Ou d'avoir cette peur écologique? Moi j'ai jamais eu la peur écologique. Il y avait déjà des dingues qui gouvernaient le monde, mais ils n'étaient pas aussi ouvertement dingues. Ils le montraient moins en tout cas. Oui,
les médicaments étaient plus forts.
est-ce que ça c'est quelque chose qui vous réunit, par exemple une angoisse devant cette terre qu'on est en train de vous laisser?
Complètement, ouais, complètement.
Et qui pourrait avoir aussi, on est littérature, hein, avoir ouais. évidemment une lecture dans ce que vous éditez ou dans les gens qui viennent vous rejoindre dans l'aventure.
Bah, c'est ça, en fait, c'est l'objectif aussi de la maison d'édition, c'est à travers la culture, c'est essayer de modifier le monde de la meilleure des manières, en fait. Hein. C'est vraiment ça. Du coup, effectivement, il y a plein d'angoisses réelles face à l'évolution du monde, mais face aussi à notre conditionnement en tant que jeune de la génération 90, hein, c'est l'explosion d'Internet, c'est aussi un accès aux informations complètement différent, aux images qu'il y a à travers le monde. Là, c'est encore plus exacerbé avec cette génération et les réseaux sociaux. Mais c'est déjà, en fait, on est un peu une génération de transition. Mmh. Bah, il y a aussi le mot transition, c'est vraiment entre deux époques.
Oui, ouais. Vraiment, oui. Ouais. On le sent, parce que c'est vraiment un point pivot. Moi, j'ai une fille qui a votre âge, hein, donc, qui est née en 90. Donc, elle est vraiment là-dedans. Et elle est un peu héritière de nous. Et en plus, elle instite. Donc, elle voit très bien les angoisses qui naissent chez les jeunes qu'elle n'avait pas du tout. Ça, c'est sûr qu'elle ne les avait pas du tout. Comment vous définiriez justement cette ligne éditoriale? Parce que devant ce constat qu'on vient de faire, il y a les gens qui rentrent complètement dans ce modèle, hein, qu'on est en train de nous mettre en ce moment. Et puis, il y a des gens qui résistent. Vous êtes plutôt, avec les échanges qu'on a, plutôt résistant, plutôt engagé.
Ah ouais.
Hein, on va dire ça.
Oui, je Baptiste. pense que là, clairement, ce qu'on essaie de mettre en avant, c'est des récits qui vont être un peu plus singuliers, un peu plus engagés. Qui ne vont pas forcément se conformer et rentrer dans le moule, en tout cas, de ce que la société actuelle, qui est quand même un peu en perdition sous bien des aspects, on va dire, comme on vient de l'évoquer. Je pense que de tout temps, il y a des jeunes générations qui ont tenté de résister à ce qui se passait. On peut penser à la Beat Generation, qu'on aime beaucoup, en Amérique, qui se battait contre la guerre au Vietnam, qui n'était pas qu'une bande de drogués. Même les romantiques, à leur époque, dressaient des barricades pour la liberté d'expression dans les rues de Paris. Enfin, voilà, il y a toujours eu, dans les mouvances littéraires, une aspiration un peu plus grande et toujours un peu politique aussi, à se dresser un peu contre l'air du temps qui est parfois mauvaise.
Vous parlez de la Beat Generation, on peut aussi parler évidemment de tout le mouvement avec Steinbeck, enfin tout le mouvement après 1929. Évidemment, comment ne pas parler, on parle tous de dystopie en ce moment, mais une qui est fameuse, c'est quand même 1984, hein, avec Orwell, qui était un homme et très engagé d'ailleurs politiquement. C'est ces engagements-là qui sont des fois aussi des engagements de jeunesse, justement. C'est important aujourd'hui quand même de ne pas se laisser bouffer par le... on parle de woke, moi je trouve ça très bien d'être éveillé, quoi. C'est un beau mot, woke, on en fait une pourriture de mots maintenant. Mais
oui, maintenant c'est très très bien, oui. Non, en fait, c'est aussi de préserver toutes les nuances, parce que je trouve qu'on est dans une époque où j'ai l'impression que tout devient très réac, enfin tout le monde devient très réactionnaire sur plein d'aspects et s'extrémise énormément sur leurs opinions et sur leurs idées. Et l'idée aussi, c'est de préserver toutes les nuances et de les mettre en valeur. Parce qu'en fait, le monde en soi, il reste très nuancé et très riche sur tous ces aspects, quoi.
Ouais, et je pense, si je peux rajouter juste, que c'est là aussi où la littérature, elle a son rôle à jouer. C'est que pourquoi la société est de plus en plus contrastée aussi, je pense, c'est parce que les contenus sont de plus en plus courts, l'attention est de plus en plus réduite, et justement, les livres... la lecture, ça ouvre un peu cette porte de je prends mon temps, je prends le temps de lire, je prends le temps de lire des phrases, de lire toute une histoire, de me poser. Et c'est un temps précieux qu'on perd un peu trop aujourd'hui et qui permet justement de retrouver toute cette nuance qu'on peut avoir un peu oubliée à l'extérieur ou devant son écran, quoi.
Tom, aujourd'hui, on a la chance d'être avec Baptiste qui vous a rejoint, mais est-ce que ce n'est pas peut-être la seule attente que vous avez vis-à-vis de vos auteurs? C'est que quand même, ils partagent ces valeurs-là?
Ah mais si, complètement. Et puis c'est l'objectif en fait de cette maison d'édition, c'est vraiment de créer une aventure humaine et de rassembler des gens qui s'alignent sur les mêmes convictions et sur les mêmes valeurs à défendre. Ouais.
Et une dernière question avant notre pause musicale, Tom. Comment moi, j'ai toujours l'image d'un auteur, je ne sais pas, Baptiste, si vous les voyez comme ça, mais l'auteur, c'est quelqu'un d'assez autocentré. Genre, pour arriver à sortir tout ça de soi, il faut être concentré sur soi et sur sa création. Comment on passe d'auteur à avoir ce regard sur les autres? Parce que dans cette démarche de maison d'édition, il y a beaucoup de regards sur les autres.
Mais je pense que l'auteur, c'est un observateur par défaut. Alors, effectivement, il y a des phases où il va être centré sur lui-même, mais je pense que toute sa richesse et de quoi il se nourrit, en fait, c'est vraiment l'observation et les autres. De toute
façon, c'est les autres. Il ne faut pas vous oublier quand même, parce que c'est un bon auteur, Thomas. Alors, ne vous oubliez pas, s'il vous plaît, parce qu'à force de trop, ça bouffe, hein, le métier d'éditeur. Juste après vous, il y a un monsieur qui pourrait être votre grand-père, je pense. Comment, il ne serait pas content s'il m'entendait dire ça. Jean-Claude Rivière, qui a monté une maison d'édition aussi, et qui se fait bouffer par la maison d'édition. Ça prend beaucoup d'énergie, quand même. Ouais. Mais il faut des gens gentils. Entourez-vous d'autrices et d'auteurs gentil.
C'est ce qu'on essaie de faire.
Qu'on pas des égos surdimensionnés. Parce que les égos surdimensionnés, c'est chiant.
On fait un test d'égo de toute façon
c'est
avant de signer les contrats.
Merci. On va marquer une première pause musicale que vous avez choisie pour nous, même si je vous ai donné une très mauvaise nouvelle. C'est que Will.i.am était hier à Davos en compagnie de notre ami Trump. Mais on a quand même choisi les Black Eyed Peas parce que c'est sympa quand même comme musique.
Ouais. Voilà. Hein, voilà.
Allez, c'est la dernière fois qu'on l'écoute.
Hier encore. Watch out.
The chair. I'm the cyanide that snatch your life while you gasp for air. The echo that boomerangs to hurt your loved ones. The thief that took your son held by ransom. The bullet that raped your wife. The hand that held the knife that took your life. You shot Tupac and Big Air. Now I'm coming after you like VWXYZ. This is cause and effect. The domino effect. The what goes up must come down effect. You will get done if you had a hand in doing the doing. The conclusion of the evil you ended and started pursuing. Just a piece of trash. You gave me cash every week just enough to live, but didn't get what I deserved. Instead I was deceived. Still young and didn't know about this industries. How they act so crass and shady. They'll crush your dreams, your and your whole entity. Subliminally you're on a higher form of slavery. Remember that what goes around comes around. God is watching you in everything that you do. Do you remember everything that you did before? The way the bad action opens karmic doors.
Will.i.am, tu es puni. On te coupe le bec, Will.i.am. À FM+, on fait de la, hein, on résiste devant Trump. Et oui, parce que vous êtes bien sûr Radio FM+, c'est le 10-10. Et le 10-10 ce matin avec la nouvelle maison d'édition Hall 12. Et je suis en compagnie de Tom Lodi, que vous avez peut-être, si vous... Vous allez sur le site, le tout nouveau site de Radio FM+. Tous les podcasts sont disponibles. Donc, vous pouvez écouter le podcast de l'émission que j'avais enregistrée avec Tom l'année dernière. Et Tom est venu en compagnie de Baptiste Morvan pour nous parler de cette maison d'édition. Il y a plein de choses dont je veux parler, mais pour ne pas zapper les auteurs qui sont quand même les plus importants dans notre démarche, oui. Tom, je voudrais vous présenter les deux premiers livres qui sont sortis.
Alors, le premier, c'est un recueil de nouvelles de Sergio Leo, auteur montpelliérain. Et ce recueil est en trois parties. Il y a une partie qui va plus traiter de la routine dans certains quartiers populaires. La deuxième va plus aborder certains personnages féminins. Et la troisième, du coup, elle est liée à son expérience en tant qu'infirmier à la Colombière. Où là, effectivement, il va créer des personnages un peu qui ont une vision complètement décalée du monde et qui voilà qui errent dans ce monde avec leur prisme.
C'est lui par exemple, c'était un comment on appelle ça Le manuscrit que vous aviez déjà avant, merci. Que vous aviez avant de créer la maison d'édition. Vous connaissiez Sergio avant ?
Je connaissais effectivement Sergio avant. À vrai dire, c'est quelqu'un que j'ai rencontré à l'époque lors de mes soirées sur Montpellier. Et on a un ami en commun. Et derrière, on s'est mis à parler écriture. Et depuis, on se suit, on se partage énormément notre travail. Et pour le coup, j'ai un profond respect. Enfin, j'adore vraiment ce qu'il fait. Et on s'est... Il m'a toujours tiré vers le haut aussi, moi-même, sur le travail d'écriture.
Ouais, mais c'est bien d'avoir aussi des gens avec qui on est heureux de travailler et qui s'entraportent. C'est important. Et puis l'autre, c'était quand vous m'avez parlé de Louana Rex, je vous disais, mais je la connais parce que je l'avais reçue, parce que Louana fait plein de choses sur Montpellier.
Elle fait mille choses, je ne sais pas comment elle fait, mais elle fait mille choses, c'est incroyable.
Elle faisait un festival qui s'appelait Les Arts Fantastiques. Voilà, okay. J'ai retrouvé le nom l'autre jour, c'est Les Arts Fantastiques, et je l'avais reçue pour parler des Arts Fantastiques.
D'accord,
incroyable. Et donc elle est autrice aussi, oui. Ouais,
elle est également autrice, elle est réalisatrice, elle est scénariste. J'ai l'impression qu'elle met ses journées en repeat.
Alors 48 heures à la truc.
Mais en tout cas, effectivement, on sort son premier roman, du coup, Cyrielle Brume, tome 1, Le Fluide. Et du coup, ça va parler de l'histoire d'une adolescente qui sort de ses années lycée, des années lycée plutôt dures, où elle s'est pas mal fait harceler. Elle va rentrer chez ses parents dans le Cosméjean. Et là, elle va rencontrer la fille d'un ami, une réfugiée syrienne, et elles vont se rendre compte qu'elles ont tous les deux des pouvoirs liés à la nature. Cyrielle, ça sera lié au feu, et son ami, ça sera lié à la terre.
Donc, quand elle était dans les arts fantastiques, elle était déjà un peu dans le fantastique.
Derrière, elles vont en fait utiliser ses pouvoirs. Alors, ça reste très ancré dans le réel,
réalité.
Pour aller défendre. La cause contre la 69. Mmh. Du coup, c'est vraiment un roman qui mêle les genres et les codes. Et... Alors, il y a un côté fantastique, mais ça reste très, très ancré dans les
enjeux. La 69, c'est lequel ? C'est celui de Toulouse-Classe, là-bas ?
Exactement, oui. Exactement.
Et du coup, parce qu'en plus, elle est écolo.
Elle est écolo, et là du coup, elles vont rejoindre la ZAD, et elles vont rencontrer aussi toute la communauté qu'il y a sur place, et elles vont se mettre à œuvrer concrètement pour défendre... ce projet.
Oui, ils viennent de sortir, vous avez eu le temps de les lire, Baptiste, ou pas encore ?
Alors, le Sergio Léo, j'ai eu le temps, et le Louana, j'ai pas encore eu le temps, je vais le récupérer là en sortant pour me plonger dedans.
Je viens de lui ramener.
Mais c'est vrai que c'est aussi des gens qui ont votre âge, tous les deux ?
Plus ou moins, oui.
Complètement, ouais. Ouais.
Avec quand même aussi les mêmes préoccupations dont on parlait en entrée d'émission.
Tout à fait.
Exactement, ouais. Ouais.
C'est une grande partie, je voulais vraiment en parler et pas en parler à la fin, je voulais qu'on prenne le temps de présenter les deux ouvrages, mais il n'y a pas que ça dans le numéro 12, il y a des moyens de soutenir, enfin vous cherchez aussi à soutenir les auteurs. Alors j'ai trouvé trois grands piliers, hein, c'est les ateliers d'écriture, le programme d'accompagnement qui est en construction, et les revues littéraires qui est une envie aussi que vous avez de faire aussi, de connaître des jeunes, donner la sens à des premiers textes aussi dans les revues littéraires. On va parler de chacun si vous voulez bien. Les ateliers d'écriture, comment ça se passe ?
Alors les ateliers d'écriture, il y en a deux par mois et on fait ça sur Fabreg et on a un groupe. L'objectif de ces ateliers d'écriture, ça ne sera pas forcément de rentrer dans le côté technique et dans le côté strict de la... On va dire, strict de la littérature. Là, en fait, tout est construit de façon à ce que les gens puissent vraiment libérer leur plume et se laisser aller, vraiment se laisser aller et se débrider complètement avec l'écrit.
Vous me disiez qu'il y avait pas mal d'inscrits quand même, ça marche bien.
Oui, ça marche bien. On a doublé, comparé à l'an dernier, on a doublé cette année. Et non, franchement, ça plaît énormément.
Et c'est quoi le profil des gens qui viennent à des ateliers d'écriture ? C'est des gens qui veulent écrire pour se faire plaisir ou qui ont quand même... On peut poser la question à Baptiste, parce qu'il dit « j'ai écrit, publié, non ». Mais est-ce que ça vous donnerait envie d'être publié, Baptiste ? Est-ce que c'est une envie que vous avez d'être publié ? Mais Tom, excuse-moi, le profil de ces ateliers d'écriture ?
Il y a un peu de tout. Il y en a qui viennent vraiment pour s'accorder ce créneau de 2 heures, parce qu'ils ne l'accordent pas à l'extérieur. Et il y en a d'autres qui viennent parce qu'ils adorent ce type d'exercice. C'est beaucoup d'improvisation. Ça les sort de leur zone de confort et du coup ça fait beaucoup travailler l'imaginaire grosso modo. Ouais.
Baptiste, vous avez participé à un atelier ou pas ?
Non, plus.
Et donc vous nous disiez que vous écriviez et être publié par exemple c'est quelque chose, c'est un, un one selling point, comme on dit, enfin, quelque chose vraiment, le Graal, ça serait important pour vous, ou en fait, le fait d'écrire, et, bah, ça vous comble déjà bien?
Non, je pense que le fait d'écrire me comble. Le fait de réussir à finir un écrit, c'est ça qui est important. Mmh. La publication ensuite, effectivement, c'est la cerise sur le gâteau, on va dire. Mmh. Mais je pense que le plus satisfaisant, en tout cas, c'est de commencer un ouvrage et de s'y mettre et de le finir. Et c'est ça qui est le plus compliqué. C'est ça qui, pour l'instant, est le plus important à mes yeux. Après une publication, effectivement, c'est sûr qu'on ne dit pas non. Mais c'est un...
Il écrit très bien, cela. Ouais.
C'est Tom qui dit pas non. Tom, il y a plusieurs tarifs. C'est peut-être le moment de parler du site qui est très bien fait.
Ah, merci.
Très, très bien fait, voilà. Et qui est très complet. Et qui est bien fait parce qu'il parle de tout. Mais on ne met pas 3 heures à lire le site, quoi. C'est moins les sites où il y a beaucoup, beaucoup de lectures. Faut vous allez vraiment à l'essentiel.
Et
notamment, par exemple, s'il y a des auditeurs qui veulent en savoir plus sur ces ateliers d'écriture, en allant sur... Vous tapez au numéro 12, vous avez tout. Mais il y a plusieurs tarifs, en plus.
Il y a plusieurs types d'adhésions, effectivement. Il y a une adhésion... pour les ateliers d'écriture, c'est une adhésion à 130 euros l'année. Et du coup, ça couvre vraiment toute l'année. Et ça intègre aussi le fait de recevoir tous les ouvrages qu'on sort et la revue littéraire.
C'est bien parce que c'est un peu, c'est pas seulement un atelier d'écriture, c'est aussi rentrer dans la philosophie de Hall 12.
Complètement, ouais, complètement.
Hall numéro 12, si j'enlève le numéro, ça. Après, vous aimeriez, vous êtes en train de construire un programme d'accompagnement.
Oui, effectivement, c'est une idée qu'on a eue, qu'on essaye de développer. Et l'objectif, ça serait vraiment d'accompagner des auteurs de A à Z, mais il y a vraiment un projet qui va nous parler, qui va défendre vraiment les mêmes valeurs et qui va complètement correspondre à l'identité de la maison d'édition. Et l'objectif derrière, ça serait vraiment de faire signer un contrat d'édition et qu'on travaille, ça prenne 1 ou 2 ans, mais qu'on travaille vraiment le projet à fond et qu'on le développe à fond. Ouais.
C'est difficile pour un jeune homme, justement, de se trouver dans cette situation-là, parce qu'en définitive, faut pas être victime du syndrome de l'imposteur. Parce que dire quelle légitimité j'ai, moi, pour conseiller l'autre, c'est pas toujours facile d'être dans cette position-là. Oui,
ah,
vous.
Ah oui, moi, oui, oui. D'accord.
Vous et les gens qui peuvent travailler avec vous, justement, pour cet accompagnement.
Complètement. Mais après, c'est vrai que l'objectif aussi de la maison d'édition, c'est de se décomplexer. Moi, je me suis beaucoup décomplexé là-dessus et je me suis rendu compte que c'était un milieu quand même assez strict sur plein d'aspects qui cultive quand même une sorte de culte de l'intellect qui est parfois complètement déraisonnable et qui s'écarte complètement du côté culturel et
oui parce que moi je suis très troublée des fois, excusez-moi de vous interrompre, mais c'est vrai qu'il y a des grands auteurs qui acceptent que les agents littéraires et les gens qui les accompagnent disent bah non là tout ce chapitre là tu le refais c'est pas bon, alors qu'il y a des fois des jeunes auteurs qui n'ont pas fait beaucoup leurs preuves et qui si on change une virgule vont se fâcher, donc il y a beaucoup d'ego dans la création aussi.
Ah, c'est très sérieux, il y a énormément d'égo, il y a beaucoup d'exigences. Hein, et là, pour le coup, nous, dans notre processus de travail, par exemple, avec les auteurs, l'objectif, c'est aussi de leur permettre d'incarner leur plume complètement. Et là, c'est vraiment, vraiment... On va être surtout sur de... On va être un peu plus chiant, si je peux me permettre de dire. Par exemple, il y a un terme... Par exemple, on va parler de basket, on va employer le mot faute, alors que c'est complètement... Enfin, ce terme-là n'est pas propre au sport.
Mmh.
Et du coup, on va retravailler ces petites nuances-là juste pour qu'il y ait une cohérence globale, complète. Mais derrière, on laisse libre cours aux auteurs. Après, c'est un travail d'équipe. Et c'est quand même un équilibre très dur à atteindre, pour le coup, pour nous. Parce que derrière, on a de la chance d'être... Enfin, Léo et Luana, ils ont fait un travail monumental de structure, de réécriture en amont. Ils ont eu cette rigueur, eux, personnellement. Et pour le coup, on a eu énormément de chance aussi de tomber sur des auteurs pareils. Ouais.
Mais c'est vrai que si, dès le début, les bases dont on parlait avant la pause musicale, justement, d'être dans la même philosophie de maison d'édition, d'être sur les mêmes bases, et justement, peut-être de sentir le mec qui va venir, ou la nana, hein, qui va venir avec un ego surdimensionné, qui va vous faire ne pas le prendre dès le début, quoi. Ça peut être un choix, même si le texte est intéressant, se dire le travail qu'on va faire avec cette personne, ça va être tellement pas bien à vivre qu'on préfère ne pas le faire.
Ah, ça va être clairement un choix, enfin ça va être même un choix facile à faire parce qu'on veut pas du tout s'entourer de personnes. C'est un peu dur de dire comme ça, j'avoue que là pour le coup ça
oui, mais il y en a, hein, les égos c'est vraiment pénible, quoi. Mais
ouais, c'est ça, si c'est pour perdre du plaisir, parce que pour le coup ça reste humain, ça reste engagé humainement, ça doit le rester dans toutes les étapes en fait de l'aventure.
Et puis le troisième pilier, c'est la revue. On parlait quand on s'est rencontrés la semaine dernière au café des revues de la tradition en France, des revues littéraires, évidemment la NRF, mais pas que. c'était important justement ce projet de revue et dans quel axe vous le portez justement ?
Alors c'était très important parce que du coup la revue, je trouve que c'est un format parfait pour que ça se retrouve dans tous les foyers. c'est un peu, on vulgarise le format, mais pour donner un contenu incroyable. Et derrière, c'est important parce qu'on voulait aussi l'accès de façon à donner la voix aussi. Là, pour le coup, ça sera vraiment des auteurs. C'est lié à un concours de nouvelles, en fait. Et c'est vraiment lié à des auteurs qui ne sont pas forcément encore publiés. Et
c'est donné, c'est souvent le but de la revue.
C'est vraiment ce but-là. Derrière, cette revue, elle est en deux parties. Du coup, il va y avoir les lauréats du concours de nouvelles. L'an dernier, le concours de nouvelles portait sur le sujet « Survivre dans un monde en crise ». Et il y a une deuxième partie où les auteurs qui sont intégrés, peu importe dans la branche du hall numéro 12, que ce soit dans les ateliers d'écriture, il y a moi-même, il y a Léo et Luana aussi qui ont écrit un texte. Il y a cette deuxième partie où on offre aussi du contenu additionnel des auteurs qui sont présents.
Pas encore publiés, puis ceux qui sont publiés.
Et puis ceux qui sont publiés, voilà, exactement. Et je me suis peut-être un peu perdu là.
Non, mais c'était ça, c'était tout à fait ça. C'était le but de justement de la revue, c'est de retrouver des auteurs qui commencent à se confirmer et puis d'autres qui commencent complètement. Baptiste, vous nous disiez que vous commenciez à écrire. Il y a un sujet, je ne sais pas, on dit toujours le policier, le fantastique, l'héroïque fantasy. Voilà. Il y a un style qui vous tente plus qu'un autre ou pas ?
Je dirais que je suis plus porté sur les récits un peu d'autofiction. Parce que c'est ce que j'ai beaucoup lu. J'ai aussi beaucoup lu de science-fiction et de fantasy, hein, mais c'est quelque chose dans lequel je prends moins de plaisir maintenant dans l'exercice d'écriture.
C'est quoi l'autofiction exactement ? Parce que moi, je connaissais l'autobiographie. Maintenant, la reine de l'autofiction, c'est Christine Angot. Je veux dire, aujourd'hui, c'est quoi la limite pour vous, Baptiste, jeune auteur, entre l'autobiographie, entre me raconter, entre écrire un livre à la première personne, un jeu, et puis en faire un personnage de fiction, c'est-à-dire de porter le jeu au il ?
Je pense que c'est un travail sur ce qu'on va prendre de soi et ce qu'on va romancer. Et je pense que la nuance, elle peut être fine comme elle peut être très large. Et des auteurs, par exemple, on va dire comme Bukowski, Céline ou Fante ou plein d'autres, dans ce style-là, depuis la fin du 19e, ont vraiment fait ce genre quelque chose de très puissant et qui est aujourd'hui... on vient un peu dans l'ère de l'autofiction, hein, c'est un peu générationnel. Tous les bouquins parlent de jeux, tous les bouquins parlent de leur relation à leur père, à leur mère, etc. Je pense que c'est un moyen aussi intéressant de parler du monde et en se sentant légitime. D'apporter un peu une part de soi et de se mettre un peu plus dans son œuvre et d'en donner un peu plus de soi-même aussi.
Il n'y a pas de date de parution pour Baptiste, Tom.
Non, pas encore.
Il n'y a pas de date de fin. D'ailleurs, vous êtes parti sur des nouvelles, sur un récit, sur une autofix. Enfin, ce n'est pas des nouvelles, c'est un...
Alors, j'ai écrit des nouvelles, si, j'ai fait plusieurs types d'écrits, mais là, effectivement, ce que j'aimerais faire, c'est plus réaliser un roman.
Vous savez, quand on reçoit 250 pages, quand on reçoit plus de 250 pages, c'est rare. C'est vraiment rare d'avoir des manuscrits, quand je les reçois sous forme de manuscrits, ou des livres. Là, c'est vrai que je viens de lire un livre de 600 pages et un livre de 400 pages. Ça fait très longtemps que je n'avais pas dépassé les 400 pages. D'ailleurs, une autofiction, mais l'autofiction, c'est La Maison qui parle, dans le dernier que j'ai reçu. Vous voyez, c'est un très, très chouette livre. On va se quitter bientôt. Il reste deux minutes, une minute, voilà. Peut-être, Tom, je vous laisse donner tous les renseignements sur votre site ou comment vous joindre.
Ah, c'est d'accord, à vous. C'est à moi. La parole, c'est à vous. Du coup, on a le site. Un site internet en ligne et il suffit de taper hall numéro 12 et pour le coup il est plutôt bien référencé et derrière on est accessible sur Instagram, c'est hall 12 édition il me semble, et puis c'est tout pour l'instant, faut qu'on développe nos réseaux sociaux.
Il y a du boulot,
il y a un gros travail derrière,
c'est en cours.
Mais en tout cas, votre travail, moi, m'a donné envie de vous rejoindre. Alors, je ne sais pas à quel niveau, mais je suis ravie de rejoindre cette belle aventure.
Ben nous aussi.
Ben nous aussi.
Et puis, merci à Baptiste. Alors, j'attends hein, le livre. Tom, c'est de bouffe si vous arrêtez d'écrire.
Non, ben, mon second projet, je viens de finir mon second roman aussi.
Alors, ça va. Et puis, vraiment, belle carrière et beau vent à cette nouvelle maison d'édition, à le numéro 12, Hall numéro 12. Avec des beaux sujets. Et le livre de Lou Anarex peut être aussi lu par les ados, les grands
complètement,
ados.
Complètement, c'est
hein,
ça, ouais.
Tout à fait. Merci et à demain pour un autre 10-10. Au revoir, Tom Lodi.
Merci, au revoir.
Au revoir, Baptiste Morvan.
Radio FM+.
Ce 10-10 vous était proposé par le musée Parcelle 473 à Malbosc, sur les hauteurs de Montpellier. Exposition, ateliers, rencontres avec les artistes. Vous avez rendez-vous au musée Parcelle 473 avec le street art, l'art contemporain, en un mot, l'art pour tous.